With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est Gilles Durand. Bienvenue dans Première fois, la série podcast de 20 minutes consacrée aux premières fois dans le sport. Épisode 4, quand la guerre civile et le boycott ont laissé le tournoi des 5 nations sans vainqueur. C'est un récit d'Émilie Delettré.
Dimanche 30 janvier 1972 à Derry, en Irlande du Nord. Une dizaine de milliers de manifestants défilent pour l'égalité des droits civiques entre catholiques et protestants. Voilà 50 ans que la République d'Irlande catholique a été proclamée. Sauf pour un petit bout de l'île resté sous le giron du Royaume-Uni et des protestants. En Irlande du Nord, une certaine tension demeure entre catholiques et protestants et ce dimanche, elle atteint son paroxysme lorsque l'armée britannique fait feu sur la foule. Bilan, 14 morts. Un Bloody Sunday, dimanche sanglant, qui sonnera le début d'un conflit armé où 500 personnes perdront la vie durant l'année 1972. Loin des balles, c'est autour d'un ballon ovale que les antagonismes entre l'Irlande et le Royaume-Uni vont se focaliser. Le tournoi des 5 nations de rugby vient de débuter la veille du massacre de Derry. L'Irlande, qui réunit aussi des joueurs d'Irlande du Nord, a gagné son premier match en France. Elle remporte le second 2 semaines plus tard en Angleterre, dans un climat totalement apaisé. Et si les Irlandais remportaient cette année le tournoi? Un exploit auquel ils ne sont guère habitués. Pourtant, quelques jours plus tard, c'est la douche froide. La douche écossaise même. Le pays du Chardon, emblème de l'Écosse, annonce par un communiqué refuser de se rendre à Dublin pour des raisons de sécurité. Stupéfaction en Irlande. Le rugby n'est-il pas un vecteur de fraternité? En 1920, en pleine guerre d'indépendance, le stade de Lansdowne Road à Dublin s'est transformé en enclave de paix le temps d'un match entre Irlandais et Anglais. Pourquoi en serait-il autrement cette fois?
Les supporters, le public étaient vraiment dessus en fait, oui, parce que à cette époque, rugby, c'était populaire, mais c'est pas comme aujourd'hui.
Mike Prendergast, ancien joueur de la province irlandaise du Munster et entraîneur de l'attaque du Racing.
Dans chaque école, rugby mano, c'est vraiment populaire et il y a en termes le numéro, il y a beaucoup de gens qui jouent rugby. À cette époque, c'était un petit peu différent. C'était les sports qui étaient vraiment populaires. C'était nos joueurs nationaux. Ça, c'est hurling et Gaelic football.
Une délégation irlandaise se rend à Édimbourg pour tenter de négocier. La France propose d'accueillir la rencontre à Paris. La fédération belge est prête à l'organiser à Bruxelles. Rien n'y fait. La fédération écossaise maintient son boycott contre l'Irlande, qui voit dans ce geste une punition pour avoir soutenu les catholiques d'Irlande du Nord, dont la majorité des protestants sont originaires d'Écosse. Et voilà que la fédération galloise s'y met aussi. Pas question de jouer en Irlande. Le prétexte? Aucune compagnie aérienne ne veut se rendre à Dublin. Pour l'Irlande, les rêves de succès et de grands chelems s'envolent. Pour la première fois, un événement politique contraint le tournoi des 5 nations à rester inachevé, sans vainqueur. À quelques kilomètres au nord de Dublin, à Belfast et en Irlande du Nord, le conflit va encore durer une trentaine d'années et faire plus de 3500 victimes.
Derek Gallagher, bonjour. Vous êtes Irlandais, habitant en France depuis 25 ans et grand amateur de rugby. La première question qu'on se pose concernant cet épisode de 1972, c'est comment ça a été perçu en Irlande et à votre avis, est-ce qu'il y avait un vrai risque pour les joueurs gallois et écossais de venir à Dublin en fait cette année-là?
1972,
72, je pense chez les Irlandais, il y avait une grande déception hein, que donc les deux équipes ne fassent pas donc le voyage jusqu'à Dublin, même si la situation était très compliquée. Il semblerait que les équipes auraient été en sécurité à Dublin même. Hein. Donc, je pense que le sentiment dominant, c'était un sentiment de déception. Voilà.
Alors, le rugby, c'est le seul sport qui réunit les deux nations, que ce soit l'Irlande, enfin la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Comment on peut expliquer ça historiquement, que ce soit le seul sport qui réussit à faire la jonction entre ces deux pays?
Peut-être on pourrait expliquer dans un premier temps pourquoi il n'y en a pas en football, par exemple. Hein. En football, pour commencer, la fédération était basée à Belfast. Donc les dirigeants, dont ce qui allait devenir la République d'Irlande, les dirigeants du football, avaient la perception que la fédération basée à Belfast sélectionnait beaucoup de joueurs nord-irlandais pour l'équipe qui représentait l'île. Et du coup, il y a eu donc une nouvelle fédération qui a vu le jour dans ce qui allait devenir la République d'Irlande.
C'était en quelle année
Ah, ça c'est une bonne question. Je pense que c'est sans doute dans les années 30, hein, je pourrais pas dire avec certitude, mais me semble-t-il dans les années 30. Il fut un moment où des joueurs jouaient pour les deux équipes, d'ailleurs, hein, Irlande du Nord et l'Irlande, et devenir la République d'Irlande. Il y a eu peut-être une dizaine d'années où des joueurs jouaient pour les deux équipes au niveau international. Pour le rugby, ça n'a jamais été le cas. Il y a toujours eu donc une seule fédération. C'est peut-être aussi parce que le rugby était quand même un sport pour lequel l'engouement populaire était moindre. Et donc, comme cela concernait peut-être un public plus restreint, il n'y avait pas les mêmes enjeux identitaires autour du sport.
Aujourd'hui, quelle est la place du rugby chez les Irlandais? Parce que je crois qu'au départ, hein, quand il y a eu alors on peut parler d'invasion, hein, puisque c'était un peu une colonisation anglaise, c'était plutôt considéré comme un sport de garnison, je crois.
Alors aujourd'hui, le rugby, je pense, hein, si on devait donc peut-être raisonner en termes de, enfin, en même temps cette année, c'est un peu compliqué, mais si on devait raisonner en termes de spectateurs lors des matchs. Je pense que le rugby se retrouve derrière les sports gaéliques, mais devant les deux championnats de football. Sans doute, c'est parce que la fédération irlandaise a plutôt bien négocié la virée vers le professionnalisme. Ils ont mis en place donc quatre équipes pour les quatre provinces, et ça a plutôt bien marché hein, en termes d'adhésion du public. Donc c'est un sport qui rencontre un certain succès en Irlande.
C'est plus considéré comme le sport des Anglais.
Non. Après voilà, il y a sans doute des choses intéressantes à voir au niveau sociologique, hein, parce que le nombre de joueurs ou l'origine des joueurs reste quand même dans certains cas assez restreint en fait.
C'est toujours un peu un sport quand même d'élite.
Oui, voilà. Pour Dublin, Leinster, oui, sans doute. Munster, un peu moins quand même, hein, parce que là, on retrouve peut-être les traditions qu'on peut retrouver dans le sud-ouest de la France, hein, où voilà, c'est les agriculteurs qui jouaient. Vous voyez, c'est des choses comme ça. En Irlande du Nord, enfin voilà, il y a eu donc du chemin qui a été parcouru pour une plus grande mixité, une plus grande inclusion. N'empêche que voilà. Malgré eux, c'est peut-être pas encore tout à fait cela. Enfin, voilà.
D'accord. Bon, ben écoutez, merci beaucoup, Derek Gallagher, d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Première fois consacrée au boycott de l'Irlande dans le tournoi des 5 nations, c'est fini. Ce podcast original de 20 minutes est à écouter ou réécouter en s'abonnant gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.